La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio B, vous écoutez La voix de l'autre. Je vous propose d'échanger avec une invitée extraordinaire. Aujourd'hui, je reçois Odile Gaget. Bonjour Odile.
Bonjour Pascal.
Odile, vous êtes à la retraite après avoir exercé comme professeur de musique au collège. Vous êtes aveugle, votre parcours et votre détermination sont inspirants. Qu'aimez-vous dire pour vous présenter ?
Ben, je suis aveugle de naissance et mon but a toujours été d'être le plus autonome possible dans la vie. Donc, ce qui m'a amené à devoir me battre un peu pour y arriver. Et maintenant, en retraite, je continue à essayer de faire avancer la cause des personnes handicapées.
Vous êtes battue donc en tant qu'élève, en tant que professionnelle, et maintenant à la retraite, vous engagez, on y reviendra, pour l'accessibilité, notamment dans la culture. Vous avez été une jeune élève dans une institution spécialisée pour les enfants aveugles. Puis au collège, au lycée et dans vos études supérieures, vous étiez en inclusion. Alors on rappelle que selon un principe d'égalité de droit, l'inclusion est la démarche permettant à tous les citoyens en situation de handicap ou non de participer pleinement à la société. Donc le principe de l'inclusion, c'est vous avez été scolarisé avec les autres enfants, les autres jeunes de votre âge et normalement avec des moyens de mise en accessibilité. Puis, vous avez été professeur en collège et là, vous avez vécu l'inclusion des élèves en situation de handicap en tant que professeur. Donc, j'ai envie de vous demander, Odile, quel est votre regard sur l'évolution de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le parcours scolaire ?
Il faut savoir que quand moi, j'ai été en inclusion scolaire, ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'assistant. En fait, on était dans la classe et c'était la bonne volonté des enseignants ou pas d'essayer d'adapter leurs cours. Une fois enseignante, en début de carrière, on n'en parlait pas trop. Et petit à petit, on a effectivement eu des élèves en situation de handicap. La situation est très variée. C'est vrai que certains ont des assistants. Des AESH, on dit aujourd'hui, oui. D'autres pas. On demande aux enseignants de s'adapter au parcours de chacun, ce qui est effectivement l'idéal, mais sur le terrain, quand vous en avez 27, 28, ça peut commencer à se compliquer sérieusement, surtout s'il y a plusieurs enfants qui ont des difficultés différentes. Donc, on en parle toujours beaucoup, mais c'est pas pour autant que tout est gagné aujourd'hui. Les enfants n'ont pas toujours ce qu'il faudrait pour les aider. Les enseignants n'ont pas forcément toutes les compétences. On ne peut pas être compétent en tout pour aider un enfant malentendant, un enfant aveugle, un enfant dyspraxique ou un enfant qui a des troubles du comportement. Ça ne demande pas les mêmes compétences. Donc ça reste quelque chose de difficile, même si c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais en même temps, il faudrait qu'il y ait des services à côté qui soient très efficace pour venir en aide à ses enfants.
D'accord. Globalement, vous avez quand même du coup perçu le changement de, je dirais, de paradigme, enfin de mentalité sur l'inclusion des enfants en situation de handicap et, on va dire, une petite augmentation de moyens. Enfin...
Oui, l'éducation nationale met des moyens, fait de la quantité, mais la qualité, elle n'est pas toujours là.
D'accord. D'accord. Pour vous, c'est l'axe qui devrait continuer à être travaillé. La qualité est adaptée à chaque situation de handicap qui, en effet, sont bien différentes.
Sans demander tout aux enseignants. C'est là où ça peut pas, on ne peut pas leur demander d'avoir une petite trentaine d'élèves et de tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Après, oui, il y a une évolution, je dirais, dans la mentalité. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire « Ben non, cet enfant, j'en veux pas, il est handicapé, c'est pas pour moi. » Ça, c'est plus possible. Après, savoir ce que pensent les gens réellement, c'est une autre histoire.
Oui, parce que vous, en tant qu'élève, puis même peut-être en tant que professionnel ensuite, mais en tant qu'élève, à l'époque, vous, en inclusion, vous avez eu quand même, il me semble, des refus catégoriques de professeurs aussi d'adapter, malgré les demandes de vos parents.
Ah bah tout à fait, oui. Moi, j'étais dans la classe et j'ai eu un enseignant de maths qui écrivait tout au tableau sans dire un mot pendant le cours. Une autre professeure qui refusait que j'écrive en braille. Donc oui, j'ai connu ça. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus se permettre de refuser à un élève d'écrire en braille. Ça ne serait pas admis. Mais après, il n'est pas dit que cet enfant ait les moyens d'apprendre à lire et à écrire en braille.
D'accord. Vous êtes bien sur Radio B, 90 FM, vous écoutez La Voix de l'Autre et nous échangeons avec Odile. Odile, est-ce que vous vous considérez comme étant en situation de handicap ?
Oui, je le suis forcément. Après, dire être en situation de handicap, on ne dit pas qu'une personne est en situation d'être âgée.
En situation de vieillesse ?
Ou en situation de vieillesse. J'ai un peu de mal avec... cette conception, alors ça permet de rappeler qu'on est bien une personne et pas une chose, ce qui est peut-être déjà un progrès.
Oui.
Mais je ne peux pas nier que j'ai un handicap. Ça m'enquiquine la vie quand même assez régulièrement pour que je m'en rappelle.
D'accord. Donc vous pouvez vous considérer comme étant handicapé.
Ah bah...
Ce n'est pas un terme qui vous gêne, qui vous choque.
Non. Pour moi, c'est une réalité. Même si on l'est plus ou moins, suivant les circonstances, même si la société faisait tout ce qu'elle peut, ça n'empêche que régulièrement, je me retrouvais devant des difficultés. Si je reçois un papier directement, bah, j'ai du mal à lire, il faut que je trouve des solutions pour contourner le problème, etc. Ou dans la rue, s'il y a un obstacle, il va m'embêter plus que quelqu'un d'autre. Donc, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, vous, d'adaptation, comme vous venez de le faire, dont vous avez besoin dans la vie quotidienne ? Donc, vous parliez la canne blanche.
Oui.
Oui.
L'outil informatique, qui est pour nous un sacré progrès, quand les sites Internet sont accessibles, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. Mais sinon, c'est quand même un progrès. Ça permet d'échanger du courrier beaucoup plus facilement. À l'aide d'un scanner, on peut lire des documents imprimés beaucoup plus facilement. On peut avoir accès aux journaux quand ils sont accessibles, etc. Enfin, ça permet un accès à l'information beaucoup plus important que ce qui existait avant.
D'accord. D'accord. Odile, vous êtes investie auprès de plusieurs institutions. La Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Vous œuvrez notamment pour rendre la culture accessible aux personnes aveugles. Pouvez-vous nous parler du travail que vous faites avec notamment le Théâtre de Bourg-en-Bresse et les compagnies artistiques ?
Alors, dans le cadre de l'association FAF APRIDEV, qui est une association regroupant des déficients visuels, sur Bourg-en-Bresse, je fais le lien avec le théâtre et nous organisons 3 spectacles dans l'année où des personnes de l'association vont venir et le théâtre contacte les compagnies pour que, avant la séance, nous ayons une description de la mise en scène. Alors, en général, ça se passe bien, c'est très sympathique la plupart du temps. Les comédiens ou le metteur en scène font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de nous expliquer ce qui va nous échapper pendant le spectacle. Donc c'est une solution, je dirais, intermédiaire, parce que la vraie solution, ce serait l'audiodescription des spectacles, c'est-à-dire d'avoir pendant le spectacle quelqu'un qui, en direct, nous décrit ce qui se passe sur la scène. Par un casque, hein, c'est pas pour toute la salle. Mais ça, sur Bourg, on a eu un spectacle une fois mais ça ne s'est pas renouvelé.
Parce que ça, c'est quelque chose qui serait un moyen d'accessibilité qui serait à mettre en place par les compagnies elles-mêmes ou par les institutions qui les reçoivent, par les théâtres, les lieux de spectacle.
Alors ça, je ne sais pas si les compagnies... Enfin, je pense que c'est un travail entre les deux, en fait. Mmh. Parce que l'audiodescription a un coût, forcément. Mmh. Donc, je pense que le théâtre finance en partie ce coût. Alors, qui fait la demande de l'audiodescription ? Est-ce que c'est la compagnie ? Est-ce que c'est le lieu de spectacle ? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les deux situations existent. Je ne sais pas.
Oui, parce qu'on peut imaginer qu'un spectacle qui est une première fois... audio décrit, du coup, il est l'audio description. Elle peut voyager avec le spectacle dans les villes et les villages où il y a des représentations. Eh ben, une fois que c'est fait,
pas forcément, parce que quand c'est la meilleure audio description, c'est celle qui se fait en direct. Donc, il faut la personne qui l'a fait, parce que si c'est pas en direct et que pendant la pièce de théâtre, il y a un petit décalage. Il se passe un truc sur la scène qui fait que ça se décale ou la personne ne fait pas tout à fait ce qui était prévu et que c'est une bande enregistrée, ça peut ne plus coller.
Eh oui.
Voilà. C'est la différence avec le cinéma.
Eh oui. De la même manière que c'est un spectacle vivant, voilà. L'audiodescription doit l'être aussi. Du coup.
C'est mieux. Oui, c'est mieux. Sinon, on peut avoir des surprises.
Oui. Alors, dernière question, Odile. En tant que citoyenne, si vous aviez une baguette magique, un pouvoir de décision et d'action, qu'est-ce que vous changeriez ou amélioreriez demain pour le quotidien des personnes aveugles ?
Je pense qu'il y a deux ou trois gros chantiers. Il y a l'accessibilité... de la voirie et des transports, qui est encore à beaucoup travailler. L'accessibilité Internet, donc des sites, où là, vraiment, c'est encore plus flagrant. Et puis, l'accès à l'emploi, qui n'est pas encore tout à fait au point. Il y a des textes en France, mais le problème, c'est l'application. Si on fait des textes pour l'accessibilité du web... mais que personne ne s'en occupe derrière, il ne se passe rien. C'est ce qui se passe à peu près actuellement pour Internet.
D'accord. Alors, je ne me rends pas compte, mais au niveau, par exemple, d'Internet, vous diriez qu'il y a... est-ce qu'on a des proportions sur le pourcentage de sites accessibles, notamment pour les personnes aveugles ? Est-ce que déjà, peut-être, tous les sites, gouvernementaux le sont ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il y a... C'est 15% qui le sont.
15%.
On est dans cet ordre-là. Et le gouvernement nous annonce qu'il souhaite monter, que l'objectif serait de monter à 30 et quelques pourcents en 2023. Donc on est encore très, très, très loin du compte, alors que tous les textes, il y a suffisamment de textes pour qu'on puisse le faire, mais il n'y a personne derrière.
Oui, il y a les textes et puis il y a aussi cette augmentation. Enfin, on parle actuellement de la fracture numérique avec pour tout un chacun, pour tout citoyen, un certain nombre de démarches désormais à faire via des sites internet. Je pense ne serait-ce qu'à la sécurité sociale, la CAF, la caisse d'allocation familiale, enfin un certain nombre de démarches que les citoyens doivent faire numériquement. Et du coup, en effet, les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas accès à un ordinateur ou même qui ne le maîtrisent pas un minimum, ça crée une vraie fracture.
Par exemple, je donne un exemple. Le dossier MDPH, nous, on ne peut pas le remplir en ligne.
Oui. Mais voilà. Par contre, dans l'un, vous pouvez suivre l'évolution du traitement de votre dossier sur Internet, à la MDPH de l'un.
Oui, si je ne peux pas le remplir,
après. vous ne pouvez pas suivre l'évolution, s'il n'est pas rempli. D'accord, oui. C'est intéressant. Donc pour vous, une des choses principales qui serait à rapidement continuer à mettre en œuvre, c'est l'accessibilité notamment d'Internet.
Je dirais c'est ça, mais c'est surtout d'arrêter d'en parler, mais le faire dans tous les domaines. Ce serait plutôt ça, parce que les discours, là, on en a, hein, y a pas de souci du côté du discours. Mais faudrait la volonté réelle de le faire et pas avoir des retours en arrière réguliers.
Oui, pour cela, les associations sont assez militantes sur, en effet, l'accessibilité. Essayent de faire, je pense aux associations de personnes en situation de handicap, elles peuvent être assez œuvrées dans ce sens-là pour faire bouger les lignes.
Oui, mais c'est très difficile. Parce qu'on se rend compte que régulièrement, c'est pas tout à fait ce que ça devrait être. Si vous voulez un exemple, je vous en donnais un. La rue Alsace-Lorraine.
À Bourg-en-Bresse,
voilà. Et moi, quand je descends la rue Alsace-Lorraine, je traverse toutes les rues sans m'en rendre compte.
Ah oui, il n'y a pas de,
y a rien.
Au sol, de marquage
non.
Au sol. Oui,
y
c'est
y
vrai.
Rien. Alors on me dira, c'est des petites rues, c'est une zone à 30, à 20, je ne sais plus, à 20. Vous risquez rien. Ben, n'empêche que vous ne traversez pas les petites rues sans regarder s'il ne vient pas quelqu'un.
Oui, c'est sûr. Et on apprend aux enfants à ne pas le faire,
voilà.
Aussi, parce que ça les mettrait en danger. Oui, oui.
Voilà.
Mais l'avenue Alsace-Lorraine, Odile, c'est celle qui vient d'être toute refaite.
Oui, absolument.
Ça n'a pas été pensé dans le...
On considère que comme c'est des trottoirs traversants, ce qui reste à discuter, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour nous.
Le message est passé. Merci beaucoup, Odile, pour cet échange. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oh non, pas particulièrement, non.
Alors moi, je vais me permettre de mettre en lumière le projet Phénix de la sculptrice Prune Nourrie. Cette sculptrice, en se bandant les yeux, a sculpté des bustes en terre de 8 personnes aveugles. Une vidéo de ce projet a été réalisée. Elle est accessible pour les personnes aveugles via l'audio description sur le site de l'artiste, donc prunenourrie.com. Je voulais remercier Jimmy pour l'enregistrement de cette chronique. Merci à Audrey pour sa bienveillance journalistique. On se retrouve le jeudi 18 novembre avec un autre invité extraordinaire. En attendant, vous pouvez réécouter La Voix de l'Autre sur le site de Radio B, la radio des bonnes ondes. À bientôt, La Voix de l'Autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.